Et maintenant, justement, on va écouter une chronique historique, comme on a l'habitude toutes les semaines. C'est Marion Ouazana du GLAB qui vient dans le studio marseillais de Fréquence Mistral. Bonjour Marion.
Bonjour Colline.
Si vous ne connaissez toujours pas le GLAB, allez voir leur site glab-marseille.com. C'est une association qui a pour vocation de mettre en valeur l'art et le patrimoine des quartiers entre le théâtre du Gymnase et le parc Longchamp à Marseille. Et aujourd'hui, justement, Marion nous emmène au parc Longchamp.
Voilà, alors Colline, si des édifices s'effondrent, bien d'autres arrivent à traverser les siècles. Si certains architectes veulent se faire oublier, d'autres se battent pour faire reconnaître la paternité de leur travail. Et si Marseille connaît des drames, il y a eu des volontés politiques qui ont amené des moments de gloire. Alors le Palais Longchamp, aujourd'hui je vais vous parler de la paternité. Le Palais Longchamp, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture du 19e siècle, est un monument érigé à la gloire de l'eau. Savez-vous qu'une eau potable à domicile pour la totalité des Marseillais est assez récente ? Il s'agit des années 1970. Au XIXe siècle, l'eau à domicile restait le privilège des palais, des couvents, des habillés, des hôpitaux. La population devait aller à la fontaine publique, puiser l'eau dans les fleuves ou les rivières, aller dans des puits, et il y avait aussi des porteurs d'eau. On doit au maire de Marseille, Maximilien Dominique Consola, maire entre 1832 et 1843, d'avoir eu cette phrase historique. « Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte, je ferai voter par le conseil municipal le principe de la création du canal de Marseille. » Ce canal, œuvre titanesque, va permettre de capter l'eau de la Durance pour pouvoir, par simple gravité, contourner et traverser les collines, desservir en eau Marseille et la Provence, permettre l'expansion économique et lutter contre les épidémies. Ce canal, entièrement financé par les Marseillais, par des emprunts et une taxe sur la farine, sera le seul événement de l'histoire de Marseille à fédérer tous les Marseillais. Et le GLAB l'inscrit chaque année à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. 20 ans se sont écoulés entre l'arrivée de l'eau, 1849, et l'inauguration du Palais Longchamp, 1869, pendant lesquels sont succédés plusieurs maires de Marseille. En 1859, Jean-François Honorat commande au sculpteur Auguste Bartholdi, un Alsacien, qui vient de remporter un concours, une fontaine à Bordeaux, le Triomphe des Girondins, un projet de château d'eau. Bartholdi songea d'abord à une fontaine monumentale. Après plusieurs entretiens avec le conseil municipal, il propose deux corps de bâtiments reliés par une vaste galerie avec un château d'eau central. Le tout à même hauteur pour ne voir que le château d'eau central. Le conseil municipal n'apprécie pas trop, demande l'avis de trois grands architectes. On décide que le sujet est pauvre, que l'ébauche n'est pas terrible, que les plans ne sont pas précis. Bon, bref, on évince Bartholdi, on lui paie ses honoraires. Il faut savoir que Bartholdi avait voyagé en Égypte et au Yémen, était fasciné par les grosses sculptures. Le nouveau maire Onfray, après avoir pensé à Pascal Coste, palais de la Bourse, commande en 1861 à Henri Espérandieu, un protestant nîmois qui est en train de diriger les travaux de Notre-Dame de la Garde, un projet mais dans des termes très précis. Un palais comprenant un musée des beaux-arts, un muséum, un château d'eau. Espérandieu va proposer une composition beaucoup plus harmonieuse, dédiée à l'eau, aux arts et à la science. Une fontaine centrale symbolisant l'arrivée de la Durance et le triomphe de l'eau, des jardins inspirés à la française pour les mettre en valeur, des colonnades plus harmonieuses pour relier le musée et le muséum, une partie médicinale, une orangerie, un jardin zoologique pour étudier les espèces animales. C'était intelligent parce que chaque animal mort devait enrichir les collections du muséum. Cette création lui valut le grand prix de l'empereur Napoléon III. L'éviction de Bartholdi va entraîner de violentes polémiques parce que lui va revendiquer la paternité de ce monument. Et il va dire, les colonnades en semi-circulaire, ben c'est ma création, mes plans existent, et attention, si la ville m'a payé mes honoraires, ben elle n'est pas propriétaire de mes plans. Donc il a fait plusieurs procès qu'il a perdus. Le préfet Émile de Maupas, Charles-Émile de Maupas, va même imposer son autorité à un nouveau maire pour qu'on choisisse le programme d'Espérandieu. Et donc, Bartholdi va même demander que quand le palais Longchamp sera édifié, que son nom figure sur le château d'eau. Refusé. En 1897, la Société des artistes français revendique pour Bartholdi le fait qu'il ait conçu quand même les plans. Refusé. Et il va intenter en 1901 un énième procès avec un avocat célèbre, Raymond Poincaré, futur président de la République. Eh bien, il le perd. Aujourd'hui, grâce à des auteurs français, allemands, anglophones, il est de notoriété générale que le palais Longchamp a bien été élevé par Espérant Dieu sur les données de Bartoli et on reconnaît aujourd'hui le bien fondé de sa demande. Espérant Dieu reconnaît lui-même avoir vu les plans à la préfecture, mais ce phénomène n'a pas été pris en compte par les tribunaux. Alors on pense que la municipalité de Marseille les trouvait un peu trop chers. Bartoli reste quand même un grand statutaire. On lui doit la statue de la liberté, symbole de la liberté des peuples dans le monde pour l'indépendance de l'Amérique. Mais vous allez voir le film Eiffel, eh bien on associe Eiffel à la statue de la liberté. Et à un moment donné dans le film, il dira « Mais ce n'est pas moi, c'est Bartoli qui a fait la statue ». Mais Bartoli a fait appel à Eiffel, et on revient au problème d'effondrement, pour la structure interne et pour la maintenir, pour la stabilité de cette statue. Voilà, une dernière anecdote. Un sculpteur célèbre, Rodin, de passage à Marseille, apprend qu'on engage des sculpteurs. Il se fait embaucher, donc il sera sculpteur du Palais Longchamp, mais lui aussi sera viré parce qu'on le trouve trop lent. Mais peut-être qu'il était trop cher aussi.
Merci Marion pour tous ces détails sur le Palais Longchamp. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire, vous qui vous êtes renseignée là-dessus?
Le Palais Longchamp?
Oui.
Effectivement, dans une journée comme aujourd'hui, c'est vrai que des grands monuments comme ça qui traversent les siècles, on se dit qu'à l'époque, ils ont conçu, les ingénieurs, quand on voit l'arrivée de l'eau, le travail titanesque, quand on voit le génie des ingénieurs pour avoir fait des ouvrages extraordinaires, on se demande comment aujourd'hui, effectivement, au XXIe siècle, alors, comme le disaient les auditeurs, alors qu'on sait les difficultés, les fragilités des édifices, comment aujourd'hui on en arrive encore à avoir des immeubles qui s'effondrent au péril de la vie humaine. Voilà.
C'était Marion du GLAP. On retrouve le GLAP toutes les semaines.